Cotable.
Pour être rationnel, il faut être radical.
Je dis toujours que manger est politique.
Pour que l'aspect santé est primordial.
Il faut prendre le sujet à la racine.
Et là, une fois encore, le changement climatique, il amène un curseur différent.
Faire une révolution écologique.
Et la racine, c'est pas uniquement nous en tant que consommateurs, le porte-monnaie, etc.
C'est les versants que j'ai découverts, c'est la cuisine très engagée, c'est des personnalités fortes.
Et c'est la combinaison des deux qui fait que le produit va être bon.
En fait, à la campagne, on n'a pas besoin de suivre un schéma sur Instagram.
Sur le grill, décotable.
Je suis Fanny Gianceto. Dans ce podcast, je décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. J'interroge également des personnalités publiques sur leur relation à l'alimentation et aux enjeux environnementaux. Que l'on soit expert, scientifique ou politique, artiste, même simple citoyen, l'alimentation est l'une des clés du changement. Vous nous suivez ? Et pour découvrir tout ce que l'on fait chez Écotable, n'hésitez pas à consulter notre site écotable.fr. Vous y trouverez des restaurants labellisés dans lesquels manger, mais aussi des outils d'accompagnement pour les restaurateurs afin d'accélérer la transition écologique. Bonne écoute ! Aujourd'hui, nous allons parler d'une cuisine qui a connu et qui connaît toujours un grand succès, la cuisine japonaise. En effet, les Français sont aujourd'hui friands de cette cuisine. La France est ainsi le plus gros consommateur de sushis en Europe. 22% des Français en mangent au moins une fois par mois et plus de 1500 restaurants japonais sont recensés dans le pays. Reste que cette cuisine reste largement méconnue. Derrière les emblématiques sushi et maki se cache en réalité une diversité de plats plus savoureux les uns que les autres. On pense au ramen, au tempura, au soba, au bœuf teriyaki, au curry japonais, mais j'en passe plein d'autres. On pense aussi aux desserts comme les mochi ou les dorayaki. Par ailleurs, cette cuisine véhicule certains clichés. Ce serait une cuisine peu accessible financièrement et techniquement. Elle serait saine, respectueuse des matières premières, mais pas forcément à la pointe des enjeux écologiques, en tout cas en France, avec l'usage important de poissons, pas toujours sourcés, l'utilisation des emballages et de certains additifs alimentaires. Pour questionner la cuisine japonaise, je reçois aujourd'hui Ryoko Sekiguchi. Ryoko est une autrice, poétesse, traductrice et journaliste japonaise. Elle écrit sur les cultures culinaires et dirige la collection Banquet aux éditions Piquier. Elle a aussi été la rédactrice en chef du hors-série du magazine Tempura sur Manger le Japon. Vivant entre Paris et Tokyo, elle écrit sur une pluralité de cuisines. Son dernier livre, 961 heures à Beyrouth et 321 plats qui les accompagnent, portant sur la culture culinaire libanaise. Bonjour Ryoko.
Bonjour.
Je suis ravie de vous avoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez déjà vous présenter ?
Alors, je suis donc auteur de l'expression japonaise et française, auteur littéraire, mais pas que. Je pense qu'on peut dire aussi traiteur littéraire, parce que donc je touche pas mal de choses sur ce qui nous nourrit globalement parler.
J'aime cette expression de traiteur littéraire. Comment vous en êtes arrivé à vous intéresser à la cuisine ?
Alors d'abord, ma mère avait une petite école de cuisine
au Japon,
dans les années notamment 80, mais aussi déjà elle était une justement un fervent militant écologique avant l'heure quand même, parce que enfin c'était quand même assez rare les gens qui s'intéressaient à cette question, ce qui fait que nous dans notre famille on avait droit à une sorte de ma mère faisait une sorte de foster parent des arbres, donc elle cotisait donc pour que qu'on ait droit des fruits d'un arbre, donc par exemple un pommier, et puis on avait le plaisir de d'aller cuire l'automne à la famille à notre arbre, en fait.
Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous habitiez à la campagne et qu'il y avait ces arbres ou non?
Non, on était tokyoïtes, mais okay. En fait, on cotisait les petits producteurs, en fait, des différents petits producteurs pour soutenir et puis aussi pour avoir le plaisir aussi de penser qu'il y a un arbre dont il s'occupe. Et puis aussi, on avait même, en fait, ma mère, assez folle, avait même cotisé pour avoir le droit d'un cochon.
Donc les circuits courts avant l'heure, quoi.
Voilà.
Et que vous ayez conscience d'où venait votre alimentation aussi, non ?
Oui, tout à fait. Oui.
Mais entre ça et écrire sur la cuisine, quand même, il y a un pas. Comment ça s'est fait, cette écriture?
Alors, je pense que ça a commencé très exactement au moment de triple catastrophe, de tremblement de terre et de tsunami et de l'accident de la centrale nucléaire. À ce moment-là, j'avais très peur pour le Japon, pour la cuisine japonaise. Je pensais que en fait le Fukushima c'est un peu notre Aquitaine qui est riche de du fruit, des poissons, de gibier, et que c'était comme si rayait cette région de la carte. Ah oui. En fait, qui est toujours rayée de la carte. En fait, on peut pas manger les choses de cette région. De cette région interdite, de zone interdite. Donc, à ce moment-là, je m'étais posé la question de savoir comment, en fait, au moins, avec les mots, avec les textes, on peut garder le souvenir de la nourriture qu'on avait dégustée.
Passionnant. Comment vous qualifieriez, du coup, aujourd'hui, la cuisine japonaise?
Oh! Comment on veut qualifier aujourd'hui la cuisine française? Non, mais c'est vrai. C'est la question qui est très difficile finalement à répondre. Par exemple, quand les abonnés me demandent alors qu'est-ce que mange le français, j'ai du mal à répondre, bien sûr. Mais globalement, on peut dire qu'il y a deux tendances opposées. C'est-à-dire bien sûr, il y a de plus en plus d'industrialisation, comme ici, agroalimentaire, qui s'arrange pas les choses. Et puis, qui a commencé à peu près dans les années, au milieu des années 80. Hein, avec le développement de combini, des supérettes, en fait, qui étaient ouvertes 24 heures sur 24, donc, qui proposaient beaucoup de bento, donc, les plats tout préparés. Et donc, on est devenu, en fait, habitué à ce genre de repas déjà préparés, et puis aussi développement de supermarchés et de hypermarchés. Donc, ça a commencé dans les années 80. Et, cette tendance, ça continue. D'un autre côté, il y a aussi une nouvelle tendance de la nouvelle génération de faire comme ici, de retourner dans la campagne, de faire de promouvoir le circuit court, permaculture, et donc en fait il y a ces deux tendances qui est de plus en plus clivant et puis opposées.
Donc vous direz que les Japonais en tout cas sont de plus en plus sensibles, voire sensibles aux questions environnementales sur les sujets alimentaires.
Je pense qu'il est inévitable. Je pense que pendant longtemps ils étaient un peu en retard par rapport aux autres pays, donc européens en tout cas, sur ce qui est par exemple l'engrais chimique, les additifs alimentaires. Mais là, je pense qu'on ne peut pas fermer les yeux. Et là, ils se rendent compte, je pense, notamment après, il paraît qu'après la pandémie, donc les gens sont plus en plus soucieux de leur santé. Et comme ici, donc pendant la pandémie, il y avait la panification qui était à la mode. Donc au Japon, c'est pareil. Donc les produits fermentés, paraît-il, sont à la mode, et surtout parmi les jeunes générations.
Ça me fait une transition parfaite, ce caractère sain de la cuisine japonaise, parce que c'est un cliché qui est souvent véhiculé, le fait que la cuisine japonaise serait saine. Alors déjà, est-ce que c'est vrai? Et la fermentation, ça fait partie, en effet, peut-être du cœur de la cuisine japonaise, et la fermentation est en effet reconnue pour ses vertus de santé.
Alors, en effet, la cuisine traditionnelle, ça dépend de jusqu'à où on remontait qu'on appelle la cuisine traditionnelle, mais en fait, certaines études affirment que c'est à peu près donc la cuisine des années entre, disons, 70 et début des années, enfin, 60 et 70, qui était la cuisine peut-être la plus saine. Parce que avant c'était juste après la guerre, donc c'était la dèche. Et après c'est l'industrie agroalimentaire, donc il prend dessus. Et c'est-à-dire qu'il y avait moins de matières grasses, et donc qu'il y avait en fait beaucoup moins de consommation de la viande, protéines animales, et puis aussi beaucoup de légumineux et produits fermentés, et donc par exemple comme le miso, sauce soja, mirin. En fait, les condiments de la cuisine traditionnelle japonaise sont faits de produits fermentés, donc qui est enfin forcément bon pour la santé.
Est-ce que la cuisine japonaise, c'est une cuisine qui est avant tout végétale ou pas? Nous, on a le cliché en France des sushis, des makis qui sont pas végétales. C'est du poisson cru, etc. On pense aussi au ramen, qui est souvent quand même un plat carné. C'est quoi, en réalité, est-ce que la cuisine japonaise est tournée vers le végétal?
Alors, ça aussi, ça dépend jusqu'à quel période en remonte. Alors, il y a un historien qui a dit que dans l'époque de Edo, c'est-à-dire qu'entre 18e et 19e, surtout, en fait, jusqu'à la première moitié du 19e, quand on regarde, par exemple, les livres de recettes, il y a autant de recettes des poissons que les recettes de légumes. Donc, vraiment, il y a une variété de plats végétaux. Et après, je pense que c'est une image qu'on a fait aussi, en fait, les Japonais ont fait beaucoup circuler que la cuisine japonaise, il y a beaucoup de poissons parce que et on est entouré de la mer, archipel, etc. Et puis, je pense que si vous posez la question aux Japonais, les Japonais eux-mêmes vous répondront comme ça. Alors que finalement, il faut pas oublier que c'est un archipel, mais très boisé. Il y a des montagnes, et donc en fait, on bénéficiait de la richesse de la terre.
Et au final, aujourd'hui, est-ce que vous diriez que la cuisine japonaise aujourd'hui est carnée?
Malheureusement, de plus en plus carnée, mais beaucoup moins en fait,
enfin, beaucoup moins qu'en
Europe. Je ne saurais pas dire avec les chiffres détaillés exactement combien, mais je pense que au moins la moitié ou plus un tiers, en fait, quelque chose comme ça.
Et alors, souvent, en effet, quand on pense plat japonais, on pense aux sushis, aux makis, qui sont un peu des clichés en France. Est-ce qu'ils représentent pour vous des plats emblématiques de la gastronomie japonaise, ou en réalité non, c'est pas au Japon, c'est pas ce qu'on mange?
Alors, le sushi est quand même, ça fait partie de, on peut dire, un des 5 plats nationaux de la cuisine japonaise, donc qui existait depuis l'époque médiévale, et qui surtout a développé, qui s'est développé aussi à l'époque de d'Edo, donc c'est-à-dire 18e et 19e siècle, et le 12e bon est venu après la guerre, c'est-à-dire que les gens donc qui ont appris à faire la cuisine le sushi du style Edo, c'est-à-dire de Tokyo d'aujourd'hui, sont repartis dans leur campagne, et donc c'est à ce moment-là que c'est devenu un plat national. Et bon, bien sûr, c'est facile à faire, donc, et même en fait, c'est exportable comme système de pensée, comme en recette, parce que qu'il y a le riz, qu'il y a les poissons, on peut trouver les poissons partout à peu près, et puis il y a le riz aussi, et donc c'est un peu comme la pizza. Donc pour qu'il y ait un plat devienne gagne donc un statut international, il faut que le l'idée soit simple, n'est-ce pas? C'est comme le ramen.
Et au final, c'est quoi du coup les autres plats emblématiques de la gastronomie japonaise? Vous dites c'est un des 5. C'est quoi les autres?
Oh, alors donc on peut dire, bon, bien sûr, le sushi, tempura, soba, ce sont les 3 plats qui ont été surtout en fait développés aussi au 18e et 19e siècle. Et puis là, on va dire après, comme vous dites, comme on dit souvent à l'étranger, enfin, yakitori, tout ce qui est grillade, non seulement des poulets, mais aussi des poissons, de l'anguille, enfin, tout ça. Et Et aujourd'hui des plats qui sont arrivés après la Deuxième Guerre mondiale, donc des paradisions en fait, à la fois qui sont les Japonais qui étaient en Mandchourie et puis après qui sont rentrés après la défaite, et donc comme la ramen et gyoza qui sont à l'origine les plats chinois.
Ah, ok, mais qui ont intégré complètement la
gastronomie
japonaise.
Voilà, c'est un peu comme le couscous. Hein.
Oui, ok. Et au quotidien, un Japonais au Japon, est-ce qu'il va manger des sushis? J'ai l'impression que c'est un cliché, ça, et qu'en fait, on en mange quand même assez rarement, c'est plutôt un plat de fête, quoi. Parce que ça coûte cher, parce que...
La particularité de la cuisine japonaise, c'est que les plats qui sont en tout cas répandus, connus, célèbres, pour avoir deux versions, c'est-à-dire une version populaire, une version du luxe. Ah. Donc, dans un restaurant très sophistiqué de sushi, un repas peut coûter jusqu'à 200-300 euros. Alors que il y a aussi des restaurants, des petits restaurants populaires qui servent aussi du sushi, mais simple. Mais pour midi, vous pouvez sortir avec, je ne sais pas, mettons 20 euros. Donc pareil pour les soba, il peut y avoir des soba du luxe, 50 euros, 60 euros pour un bol de nouilles, mais on peut aussi bien sûr avoir un soba tout simple 5 euros. Donc voilà, c'est pareil pour le tempura, c'est ça ce qui est assez drôle, donc qu'il y a pas de hiérarchisation. Donc ça, il y a le bonheur pour tout le monde.
Est-ce qu'il y a une différence? Alors, vous dites qu'il y a une différence clairement entre le plat populaire et le plat de luxe. Est-ce qu'il y a une différence entre la cuisine japonaise européenne, française, et la cuisine japonaise au Japon? Est-ce qu'il y a une différence entre la cuisine japonaise qu'on mange ici et la cuisine japonaise qu'on mange au Japon?
Oui, alors il y a clairement une différence. C'est que je pense c'est un peu comme la cuisine italienne à l'étranger et la cuisine italienne en Italie. Donc la différence, c'est que dans le pays, il peut y avoir beaucoup de variantes et de la diversité de plats régionaux. Il n'y a pas ici. Donc, c'est-à-dire qu'ici, en France, on peut avoir de plus en plus de plats qui sont devenus les plats nationaux au Japon et qu'on peut manger partout au Japon. Alors que la vraie richesse, je pense, du Japon, c'est qu'il y a des plats qui n'existent que dans certaines régions, dans certains coins. Donc, c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de l'Italie. Il y a des plats qui n'existent que dans une ville, dans une région propre. Et donc, ça, c'est pareil. Et puis, donc, la l'étendue aussi du pays qui fait qu'il y a des poissons qu'on ne peut manger que dans le nord, que dans le sud, les herbes. Et donc, ça fait des milliers de plats. Et c'est ça qui est la vraie richesse, je pense.
Quand on parle cuisine japonaise, je trouve qu'on pense aussi aux cérémonies traditionnelles, notamment à la cérémonie traditionnelle du thé. Quelle place ça a aujourd'hui dans la gastronomie japonaise, ces cérémonies?
Alors, je pense que c'était même dans les particularités de la cuisine japonaise lorsqu'elle a été enregistrée dans la liste de patrimoine immatériel de l'UNESCO, que la cuisine traditionnelle japonaise, cuisine japonaise en gros, est riche de rituels et donc relié soit aux saisons, soit aux croyances, ou bien à la religion, soit les rituels aussi régionaux, ou bien comme vous avez dit, donc cérémonie du thé, donc et en fait c'est vrai, et chaque fois des plats ou bien des couverts particuliers et propres, donc destinés à l'usage de chaque rituel qui sont développés. Et chaque mois, c'est vrai, on a une fête ou bien quelque chose,
Autour de l'alimentation.
Autour de l'alimentation. Enfin, en fait, oui. Chaque fois, il y a une fête, ou bien religieuse, ou bien de régionale, ou bien saisonnière. Et chaque fois, un repas, ou bien une alimentation, ou bien les gâteaux, soient associés. Donc, c'est, les couverts aussi, parfois.
Donc, c'est toujours aujourd'hui très suivi.
Bien sûr, il y a des choses qui ont été perdues, mais il y a une sorte de regain, encore une fois, parmi les gens.
OK. Qui reviennent assez.
Voilà.
À ces traditions.
Et ça, je trouve ça assez génial. Donc, par exemple, vous avez parlé du thé. Donc, à la fois, c'est maintenant, il y a tout un mouvement des jeunes producteurs, donc qui ont pris un peu le relais de leurs parents et qui essayent de, par exemple, de cultiver le thé, mais en essayant de trouver des méthodes ancestrales qui existaient et soit qui allaient disparaître ou bien qui ont été une fois perdues. Et là, il y a une sorte de recensement. C'est ces gens, en fait, voyagent partout, en fait, dans les villages et essaient de trouver les méthodes de fabrication du thé. Et ça, je trouve ça génial.
Est-ce que vous avez vu la cuisine japonaise en France évoluer depuis votre arrivée? Entre ce qu'on pouvait manger avant en France comme cuisine japonaise et ce qu'on peut manger aujourd'hui.
Ah oui, non, mais bien sûr, je suis à Paris, donc je pense que c'est ça aussi. Je ne sais pas ce qui se passe dans les villes ou dans les villages, mais quand même, je pense que qu'on peut trouver de plus en plus de choses déjà. Enfin, parce que aussi, même en étant dans les provinces, on peut acheter des choses par correspondance. Donc il y a des sites qui proposent des produits japonais augmentés. Il y a des restaurants. Il y a des gens aussi qui préparent les Français donc qui préparent leurs sushis, qui préparent leur dorayaki ou bien qui même préparent leur miso aussi en regardant le tuto donc sur YouTube et ça c'est incroyable, je trouve.
Oui, on trouve des cours de sushis un peu partout et j'ai l'impression qu'il y a une diversité de plats qu'on trouve désormais qu'on trouvait pas avant. C'est-à-dire qu'avant, ça se limitait un peu au restaurant de sushi et que maintenant, on a des restaurants japonais plus traditionnels.
Je pense que, et oui, aussi à la fois, donc il y a des restaurants plus traditionnels et aussi il y a l'émergence des plats populaires, les plats familiaux, parce que grâce, je pense, aux gens qui ont eu la chance d'aller au Japon, séjourner dans les familles japonaises, donc qui ont été accueillis par les familles japonaises, et qui ont appris parfois la cuisine, ou bien qui en sont nostalgiques. Et je pense que c'est Mathilda Montaki de la maison de Mochi, qui m'a raconté que c'était quand elle était au Japon, qu'elle a adoré le mochi et que une fois rentrée à Paris, on était en fait nostalgique. C'est comme ça qu'elle a fondé cette maison, sa maison. Et donc, je pense que il y a de plus en plus. En fait, avant, c'était des Japonais qui faisaient la cuisine et qui étaient dans la restauration. Et maintenant, il y a de plus en plus de Français. Donc, qui ont appris à faire la cuisine japonaise ou bien la pâtisserie japonaise et qui ouvrent leur propre boutique. Et ça, c'est extraordinaire.
Et il y a aussi un certain rôle de la culture. Non, je pense par exemple au film Les Délices de Tokyo qu'ont mis en avant les dorayaki qui n'étaient pas du tout connus, ces crêpes fourrées aux haricots rouges. Qu'on ne voyait jamais dans un restaurant japonais.
Ah bah oui, il y avait une sorte de boom de dorayaki, c'est incroyable. Et encore une fois, c'est facile à faire parce que c'est une sorte de pancake avec haricots rouges, donc c'est facile à faire. Et aussi le rôle des mangas est très important aussi parce que les enfants ont grandi avec ça et puis il y a souvent les scènes de table qu'il paraît que même Alors, j'ai oublié, dans quel pays d'Afrique il y avait quelqu'un, donc, que je connaissais, en fait, qui est parti, en Afrique, et puis, enfin, j'ai oublié dans quel pays. Et puis, qui a demandé aux enfants, aux écoliers, ce qu'ils connaissent de la cuisine japonaise, et puis, ils ont dit, ah, l'amen, mais sans avoir jamais mangé. Mais c'est parce que qu'ils ont regardé une émission de dessin animé et ça c'est extraordinaire, c'est assez incroyable et je pense que qu'il y a aussi comme ça en fait qui a joué pour la mode du curry japonais qui était pas connu il y a quelques années et maintenant en fait tout le monde commence à faire le curry japonais à la maison.
C'est clair. Comment vous vivez le fait que la cuisine japonaise, elle est parfois mise sous l'étiquette cuisine asiatique, sans distinction? C'est comme si on mangeait de la cuisine européenne.
Ah, vous savez, je pense que c'est de moins en moins le cas.
Mais on voit encore des restaurants où il y a aussi bien des sushis que des bao, que des nems, vous voyez ce que je veux dire?
Ouais, c'est comme une sorte de, on va dire, food court dans un seul restaurant. Oui, mais c'est moins gênant du fait que maintenant les gens savent de plus en plus, je pense. Avant, peut-être quand il y avait que ça et que quand il y avait partout l'analgame, c'était certes un peu gênant, mais maintenant, je pense que les gens mangent tout en connaissance de cause, en fait, tout en sachant qu'il y a des différences entre la cuisine de ces pays. Donc, je pense que non, ça.
Je voudrais maintenant faire un focus sur la question de l'éco-responsabilité. Est-ce que la cuisine japonaise, pour toi, tu dirais qu'elle est éco-responsable ?
Alors, il faut distinguer de ce qui est la cuisine et ce que font les gens d'aujourd'hui. Bah, de toute façon, je pense que la cuisine, une cuisine traditionnelle, quelle que soit la cuisine, est éco-responsable parce qu'avant on ne jetait rien, enfin où que qu'on soit, donc que ce soit la cuisine française, la cuisine camerounaise, la cuisine argentine, je pense que toute la cuisine était éco-responsable parce qu'on pouvait pas faire autrement. Après, est-ce que ce que les Japonais font avec l'alimentation aujourd'hui, bah ça, il y a beaucoup de problèmes parce que on jette, mais vraiment il y a énormément de gâchis, de fait que la restauration est très développée et puis il y a ces chaînes de combini, donc ces supérettes qui sont ouvertes 24 heures sur 24 et pour les raisons d'hygiène, donc les, par exemple les bento sont, il y a les livraisons de bento 3 fois par jour, c'est-à-dire que les bento qui n'ont pas été achetés jusque-là sont jetés. Et donc, vous voyez, je pense que ce gâchis est vraiment problématique. Là, maintenant, bon, les voix se lèvent, mais je sais pas du tout suffisant. Et puis aussi, il y a la question de surpêche. Au Japon, c'est vraiment lamentable ce qui se passe avec la surpêche, alors que quand même c'est une cuisine justement qui bénéficie la richesse de la mer. Il faut tenir en compte de cela, oui, mais de ressources halieutiques. Alors que là, on dit que les kombu, par exemple, les algues kombu, et vraiment, on les récolte de moins en moins, mais ça a chuté, mais énormément. Et la cuisine japonaise, par exemple, qui dit qu'elle est faite de dashi, de kombu et de bonite. Bon, déjà, là, il y a de moins en moins de bonite, il y a de moins en moins de kombu. Qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on dit que la cuisine française son bouillon. Ben, c'est difficile de le faire. Et donc là, et en fait, c'est un acte suicidaire ce que les Japonais font aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a une sensibilisation quand même qui commence à naître sur la pêche?
Oui. Alors, il y a notamment une association qui s'appelle The Chef's Blue. C'est une association composée des cuisiniers. des chefs notamment enfin du fine dining mais qui sont vraiment conscients de ce danger et qui sont là donc pour sensibiliser à la fois auprès des médias et aussi auprès des clients et aussi auprès des autres chefs et là donc ils commencent à avoir de plus en plus de visibilité médiatique et aussi d'une petite mais marge de négociation avec le ministère.
Et vous direz quand même que les consommateurs commencent à être sensibles?
Ça, il y a encore un long chemin à faire. Il y a beaucoup de Japonais qui pensent qu'au Japon, il y a encore beaucoup de poissons, alors que quand on regarde, je ne rentre qu'une fois par an, et je suis sidérée de voir qu'un poisson, par exemple, que quand j'étais petite, que qu'on mangeait, enfin, je sais pas, qui a, par exemple, mettons, qui mesurait 1 kilo, bien, qui était la taille, enfin, de 30 centimètres, maintenant on n'en trouve que 10 centimètres ou bien la moitié du poids. En fait, ça c'est vraiment... Là, je pense qu'en ce moment, écologiquement, ce qui est le plus inquiétant au Japon, c'est la question de surpèse.
Ouais. Parce que qui dit cuisine japonaise dit aussi cuisine de l'anguille, qui est un peu un plat traditionnel, en tout cas emblématique de la cuisine japonaise, un ingrédient emblématique. En France, nous, je sais pas comment c'est au Japon, mais en France, c'est une espèce qu'on voit d'extinction. Chez nous, chez Ecotable, on recommande de ne pas en mettre à la carte pour ces questions-là. Comment ça se passe au Japon?
Alors, il y a quand même de plus en plus de gens donc qui savent qu'il y a un danger. Et moi, je pense que le problème, c'est que avant, disons traditionnellement, l'anguille était un poisson de luxe, de fête. On ne mangeait que vraiment occasionnellement, et dans des restaurants. Donc, c'était un plat d'exception. Mais aujourd'hui, on le trouve dans les supermarchés. Pas cher et c'est
comme
ça.
Comme le saumon en France. Quoi.
Voilà, et c'est ça qui est problématique. Donc si je pense que si on continuait à le déguster, mais vraiment enfin 2 fois par an un truc comme ça, donc ça, je pense que tout le monde aurait pu continuer à manger. Alors que là maintenant, ce n'est plus possible, bien sûr. C'est un plat d'été au Japon parce que comme il fait chaud, il fait humide et que les gens sont vite fatigués. Et donc avant traditionnellement, on mangeait l'anguille pour prendre des forces. Et les gens continuent à manger en disant que c'est la tradition, c'est la coutume, alors que bon, c'est clairement il faut pas, en fait il faut laisser la mer se reposer un peu.
Est-ce que comme en France les poissons d'élevage ont aussi été extrêmement utilisés? En France, on a énormément de sushis autour du saumon, qui est un poisson d'élevage. Est-ce que, pareil, au Japon, les poissons d'élevage ont pris le devant de la scène?
Oui. Et là, je pense que parmi les éleveurs, parmi les producteurs, il y a des efforts, il y a des tentatives de trouver des moyens de d'élevage le plus, plus vertueuse. Et puis aussi, il y a des coquilles Saint-Jacques par exemple d'élevage vient des bien sûr les huîtres les coquillages élevage coquillage sont assez développés et ça je pense que ça c'est une relativement bonne chose parce que ça pollue moins la mer que l'élevage de poissons par exemple et voilà.
Vous avez écrit un livre qui est dédié aux saisons, qui s'appelle Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce livre et nous expliquer le système des saisons au Japon et en quoi c'est important dans la cuisine japonaise?
Alors, la cuisine japonaise aspirait toujours de imiter le paysage. En fait, ce n'est pas seulement la cuisine, mais aussi la pâtisserie. Quand vous ouvrez, par exemple, une boîte de la pâtisserie japonaise traditionnelle, paf, donc vous allez avoir le paysage. Et puis la pâtisserie traditionnelle aussi reflète le paysage, donc la couleur du ciel, du moment, vient de la terre, vient le courant d'eau, et pareil, donc la cuisine traditionnelle essaye d'inviter la nature dans les assiettes, non seulement donc les ingrédients, mais aussi dans la décoration, bien sûr, donc les bols, les motifs. Il y a beaucoup de motifs qui sont liés à la saison, parce que donc les je sais pas, un bol sur lequel est dessiné une fleur d'automne, on n'utilise pas en printemps. Donc tout est, en fait, c'est comme une sorte d'extinction de plat, ou vient de d'extinction de l'extérieur. En fait, pour que l'extérieur et l'intérieur s'échangent et se parlent.
Est-ce que ça veut dire qu'on a aussi une cuisine qui est très saisonnière et qu'on va au Japon respecter vraiment les saisons?
Bien sûr, par exemple quand vous allez donc dans un restaurant, par exemple dans trois restaurants français le même mois, vous allez retrouver les mêmes ingrédients à peu près. Mais donc au Japon, je pense que même par les ingrédients, quand vous allez dans cinq restaurants ou bien dix restaurants, vous allez sentir toujours en fait la saison et parfois la différence de saison, mais micro-saison. C'est-à-dire que il y a à Kyoto une telle herbe qui pousse mettons 15 mai. Mais quand vous allez, quand vous prenez le train et puis en une heure, vous allez dans la montagne à côté de Kyoto et il fait un peu plus frais. Et dans ce cas-là, vous ne trouvez pas de cette herbe, mais vous le trouverez une semaine plus tard. Et donc, vous allez sentir non seulement une saison, mais en fait des micro-saisons. Et puis, vous allez sentir que, ah oui, dans cette montagne, il va faire plus frais, par exemple. Et non seulement elle est saisonnière pour des raisons éthiques, mais c'est aussi parce que c'est le luxe de pouvoir déguster cette sensibilité, en fait. C'est ça qu'on apprécie, en fait, surtout dans la cuisine traditionnelle.
Est-ce que ça veut dire que l'agro-industrie n'a pas réussi à désaisonner, en tout cas, la cuisine japonaise? Ou c'est faux? On trouve quand même toute l'année, il y a quand même des restaurants qui font toute l'année.
Ah oui, la plupart de restaurants, des choses propose des choses toute l'année, bien sûr, mais je parle de la cuisine traditionnelle, la cuisine
et dans les familles, dans le foyer,
et aussi
chez soi. Est-ce que les gens ont tendance à respecter les saisons, ou c'est comme en France, on sait plus tellement ce que c'est qu'une saison?
Ça aussi, je pense que ça, il y a des écarts de plus en plus forts parmi les gens. Donc les comme ici, c'est-à-dire que les gens qui sont conscients de ce problème vont de plus en plus loin, en fait. Alors que mais là aussi, donc il y a l'équivalent de la MAP, par exemple, ou bien des produits, enfin des associations qui proposent des produits circuits courts. Donc ça c'est en train d'apparaître. Et puis aussi, surtout, donc ça s'est développé aussi en moment de, alors il y avait deux booms, à la fois juste après le 11 mars donc 2011, donc après cette histoire de Fukushima. Donc il y avait une sorte d'éveil de conscience, bien sûr, et pendant la pandémie. Et donc là, je pense que c'est ce genre de structure, les associations, donc qui proposent les légumes ou bien les produits bio, enfin de bonne qualité, en fait bon pour la santé, saison. Là, ils ont gagné des clients.
Ça m'amène à une question sur le bio. Est-ce que c'est important le bio au Japon? Est-ce que c'est une vraie tendance?
Non. Alors non, c'est une tendance, mais c'est une tendance bien sûr, mais c'est une tendance, mais par rapport en Europe, c'est très très non, c'est très il y a beaucoup de chemin à faire, et donc ça aussi mais vous savez, par exemple, ce mouvement de thé traditionnel dont je venais de parler, et là, ça, ce sont des thés, en fait, ce sont aussi des producteurs qui font du thé nature. Et donc, à la fois, il y a vraiment des gens autour de 30 ans, 20, donc qui essayent de faire des choses, et en fait la vraie tendance apparaît, et ce sont ces gens-là en fait qui commencent à vraiment à consommer bio, à cultiver bio, et puis vendre bio, et dans cette tranche d'âge ça augmente. Après, il y a vraiment un retard par rapport aux pays européens, et ce qui fait que il y a beaucoup de choses que, par exemple, que cultivées au Japon, qui ne passent pas la norme européenne, donc pour être importées ici.
Ah oui, par exemple.
Beaucoup de légumes et fruits, et puis du thé aussi, donc il y a beaucoup de thé en fait qui en avec l'engrais chimique aussi, donc ça c'est un vrai problématique.
Une question, quand je pense à éco-responsabilité avec la cuisine japonaise, et à la question de l'emballage qui me vient. On pense souvent à des produits emballés individuellement, à beaucoup d'emballages autour des fruits et légumes, etc. Est-ce que c'est un cliché? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça bouge sur ces questions-là?
Alors, c'est une réalité, et qui est vraiment lamentable, et là, la tendance aussi est en train de changer, parce que finalement c'est pas mal. Il y a une sorte de mode éco. Les gens, surtout les entreprises, pensent que si on fait la pub comme quoi on fait attention aux problèmes écologiques et tout ça, et que ça peut faire la pub. Donc bien sûr. Et donc ils essaient de montrer donc c'est une sorte de, à la fois de dire greenwashing, mais si c'est pour si ça porte quelques fruits, en fait pourquoi pas. Et en tout cas jusqu'à il y a quelques années, par exemple, partout, même quand vous achetez juste un stylo, on le mettait dans un sac plastique, du plastique, etc. Et que même, par exemple, moi, quand je dis j'ai pas besoin de plastique et de sac, c'était déjà trop tard. Et puis ils disent et puis on enlève le sac, et puis on jetait le sac. Et donc je dis mais non, c'est pas pour ça. Et là maintenant c'est en train de changer. Donc là maintenant on demande si on a besoin de sac, et puis là, ça c'est vraiment la base de base, mais quand même les choses sont en train de changer, parce que justement les gens on commençait à comprendre, même internationalement, si on veut faire le business, et que si on est étiqueté pas éco-responsable, ça marchera pas. Et c'est très bien.
Mais c'est plus une question de business, du coup, que de prise de conscience de l'impact du plastique?
Je pense que, malheureusement. Mais bon, ça viendra. Le reste viendra lentement.
Est-ce qu'il y a une question sur les produits ultra transformés aussi dans la nourriture japonaise, dans la cuisine japonaise? Je pense notamment aux sauces. Le mirin, on en a parlé, la sauce soja, qui sont des produits fermentés, et à l'origine, dans la sauce soja, il n'y a rien d'autre à part du sel et du soja. Mais est-ce qu'on a une tendance à voir de plus en plus d'additifs dans les produits?
Alors, il y a ça c'est plus complexe, hein, parce que je pense que ce qui était le pire, quoi, c'était peut-être dans les années 80, où il y avait beaucoup de ces produits avec beaucoup d'additifs, mais maintenant il y a plus de variété en fait dans les produits, et donc les gens peuvent acheter peuvent choisir, quoi. Et bien sûr les produits de qualité, ils affichent que c'est bio avec le soja non transformé, et donc il y a à la fois bien sûr les sauces soja industrielles. Mais il y a un boom aussi, une mode d'avoir chez soi plusieurs sortes de sauce soja. Alors qu'avant, on n'avait qu'une seule sorte de sauce soja, comme une seule bouteille de l'huile d'olive. Maintenant, on peut faire la comparaison plusieurs huiles d'olive. Et puis, c'est un peu ça. Donc, c'est-à-dire que forcément, il y a des sauces soja. À ce moment-là, on choisit les sauces soja artisanales. Et quand c'est artisanal, ça veut dire que vraiment, en fait, de façon artisanale. Donc ça c'est bien. Donc à la fois c'est parce que c'est aussi à la mode que ça se vend, mais pourquoi pas que les gens pensent que ah oui, les choses bio artisanales est à la mode. Enfin c'est un peu comme ça aussi en France. Et finalement pourquoi pas? Parce que après les gens goûteront et puis comprendront que c'est meilleur, que c'est bon, et donc voilà.
Pour conclure ce podcast, je vais te poser quelques petites questions. Ma première sera quel est ton restaurant japonais préféré en France?
Alors en fait, pour être sincère, je mange vraiment rarement japonais en France. À Paris, parce que je rentre régulièrement au Japon, donc.
Et vous cuisinez japonais chez vous?
Voilà, en tout cas, oui, les plats familiaux, donc souvent quand je sors, j'ai envie de manger italien, français, mais pas japonais. C'est vrai. Alors, ça c'est le dernier choix. C'est vrai.
Alors votre restaurant coup de cœur en France. Peu importe qu'il soit japonais ou pas.
Ah d'accord. Alors, restaurant coup de cœur, c'est Petrel.
Petrel?
Ouais, dans le 9e, c'est tout nu par une chef et un sommelier. Mais qui sont, mais vraiment, on a l'impression de voyager à la fois dans le temps, avec la lumière de bougie. J'emmène les gens que les gens que j'aime, avec qui je peux discuter, mais tranquillement, le temps passe un peu autrement.
Ça donne envie d'y aller. Votre restaurant préféré au Japon?
Ah, il y en a plusieurs, mais...
Pour ceux qui ont la chance de voyager.
Ah. Alors, bon, le restaurant, si je dois choisir seulement un, c'est le restaurant, un restaurant qui se trouve à Kyoto, qui s'appelle Nakahigashi. C'est la cuisine traditionnelle japonaise, mais des herbes. Le chef est le précurseur de cueillette sauvage, parce que enfin lui il a plus de 70 ans, mais il fait la cueillette depuis l'âge de 5 ans, donc il y a un demi-siècle de cueillette sauvage donc derrière lui. Et puis c'est à la fois simple, mais à la fois en fait c'est la cuisine saisonnière, mais de montagne, sauvage, et c'est très odorant, et c'est magnifique.
Votre recette japonaise préférée? Ah.
Là, je fais un peu de pub, ça c'est le curry japonais.
Le curry japonais?
Ouais, c'est pour ça que...
Comment vous le faites, vous, chez vous?
En fait, c'est pour ça que moi, j'ai fait le poudre de curry japonais avec les épices rolandées.
Ah.
Ouais. Parce que en fait c'est le nom, en fait c'est le curry japonais. Quand je dis le curry japonais, c'est non seulement le curry comme plat, mais c'est l'odeur de curry japonais tellement particulière que j'ai envie de sentir régulièrement. Donc en fait ça se décline de plusieurs façons. Donc ça peut être le riz sauté au curry japonais, ou bien le soba au curry japonais, ou bien la soupe au curry japonais. En fait c'est quand je dis le curry japonais, c'est le mélange des épices, mais avec le umami, donc qui fait que ce curry sente autrement que le curry indien.
Et ça veut dire qu'on n'a pas dans le curry japonaise, dans le curry japonais, pardon, l'utilisation de lait de coco?
Ben non. Et puis aussi plusieurs en fait produits fermentés. Donc comme parfois le miso, sauce soja, donc qui ajoute l'umami et puis cette profondeur du goût.
Donc avis aux amateurs, on peut retrouver ce curry japonais aux épices Rollinger. On mettra la référence sur dans le podcast et sur les réseaux sociaux. C'est quoi vos futurs projets, Ryoko?
Ah, je suis sur plein de choses, mais cette année, il y aura dans ma collection Le Banquet, j'ai piqué un super nouveau livre qui sera un peu l'événement qui va paraître en juin. Donc voilà.
On n'en dit pas plus. Peut-être la thématique du livre.
La thématique du livre, c'est un manifeste historique qui a changé l'histoire de la cuisine japonaise qui est inédite.
Oh, on a hâte de lire ça. Est-ce que vous avez un conseil de lecture hormis vos livres?
Oui, alors c'est un BD, enfin c'est un album La vie gourmande de Aurélie Orita chez Casterman. Donc c'est une dessinatrice de bande dessinée, donc qui avait déjà écrit en fait plusieurs albums sur la question de la nourriture. Et là aussi, donc il y a à la fois le reportage chez Gagnère, chez la Grandière, mais aussi il y a le souvenir de sa grand-mère cambodgienne, en fait ses amis qui faisaient bien la cuisine, donc et son voyage au Japon. Donc en fait c'est vrai que c'est un album à la fois très gourmand et plein de sentiments.
Merci beaucoup Ryoko. Merci d'avoir écouté le podcast sur le grill décotable. Pour nous soutenir, notez ce podcast 5 sur 5 sur votre plateforme d'écoute préférée et lâchez un commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller manger dans nos restaurants vertueux et délicieux dans toute la France. Amis restaurateurs et restauratrices, découvrez notre plateforme de restauration durable impact.ecotable.fr qui vous permet de mesurer votre impact, trouver les bons fournisseurs et vous former sur toutes les questions d'éco-responsabilité. À bientôt.
Écotable. Écotable.